Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Je vous présente ce soir, devant vos yeux ébahis, Rebecca et Philippe Boulanger. Come. Marié et femme, Philippe vient du Landron, il joue du trombone, ce qui en fait un homme de Dieu. Et Rebecca est venue au Landron chercher son mari, ce qui en fait une femme de Dieu. Je laisse vous partager le message du jour, on les accueille bien fort.
Merci, merci beaucoup, c'est un privilège d'être ici avec vous. Donc nous allons parler tous les deux, donc peut-être vous n'avez pas trop l'habitude, mais on avait à cœur de partager tous les deux. La plupart de vous peut-être connaissent Philippe déjà parce qu'il vient du Landron. Je suis venu le chercher, non pas au Landron, mais en fait au Power Camp. Donc il y a des bonnes rencontres qui se font au Power Camp. Je ne suis sûrement pas la seule, mais... vous dites, mais c'est qui Rebecca et Philippe? Donc je vais me présenter rapidement, ainsi que mon mari. Donc je m'appelle Rebecca et nous vivons à Nice, ça fait bientôt 6 mois. La semaine prochaine, ça fera 6 mois qu'on est mariés. Ouais! Et c'est un bonheur. Ceux qui disent que la première année de mariage, c'est une malédiction, ils racontent n'importe quoi, ils n'ont rien compris, quoi. C'est vraiment merveilleux. Et donc, moi, j'ai été élevée dans une famille chrétienne, de plus, une famille de pasteurs missionnaires. Et des fois, on se dit, ouais, mais vous avez été bénie, vous êtes élevée dans une famille de pasteurs, vous avez toujours eu ce message de la foi, vous avez pu grandir dans les choses de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours facile non plus. Et donc, on a différentes choses qu'on a envie de partager. Donc, moi, c'est une petite exhortation au début, puis après, c'est Philippe qui va en partager. Mais simplement qu'on rentre dans la présence de Dieu et qu'on soit réceptif surtout à ce que le Saint-Esprit a envie de dire. Comme Steve, tu te fais appeler Steve ici? Ok. Moi, j'appelle Stevie. Donc, comme Steve disait, Dieu est là, il est présent. Et bien que nous, on a des choses qu'on a vraiment à cœur de vous apporter, lui, il a des choses dont il veut vous parler individuellement, tout particulièrement, et qui correspondent à votre situation ou vos circonstances. Ok? Donc, on va simplement entrer encore plus dans la présence de Dieu. Merci au groupe de louanges qui a fait toujours un travail fantastique. Seigneur, je te remercie pour cette soirée. Je te remercie parce que nous savons que tu es là, tu es présent. Et tu as dit dans ta parole que si 2 ou 3 sont rassemblés demandant quoi que ce soit, tu es là et tu y réponds. Et Seigneur, nous demandons vraiment que tu œuvres dans nos cœurs ce soir. Nous te laissons la place première. Nous laissons libre cours au Saint-Esprit d'agir, d'intervenir, de dire ce que lui a cœur de dire, ce que lui a envie de dire. Et nous prions que des semences vont être plantées dans le cœur des gens. Des choses vont être arrosées, des rêves vont être ravivés. Ah, et nous allons aller de gloire en gloire. Nous te remercions pour ton œuvre ici ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ayant été élevée dans une famille chrétienne de croyants, j'ai été élevée dans l'église également. Et dans l'église, j'y ai vu beaucoup de choses. Après, j'étais vraiment protégée, donc grandissant dans une église, mes parents ne me disaient pas du tout ce qui se passait, s'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, ou des gens qui étaient offensés, ou différentes choses. Donc je pensais que tout le monde dans l'église était des anges. C'était merveilleux, c'était toujours gentil, c'était toujours là, ils nous aimaient tellement. Et nous, en tout cas, oui, ils nous aimaient, on était encore tout petits, on ne pouvait pas encore les offenser. Mais en grandissant après, j'ai commencé à voir que souvent, dans les églises, on s'attend à ce que les gens soient parfaits. On s'attend à ce que les gens, dès qu'ils aient invité Jésus d'entrer dans leur cœur, ils sont absolument parfaits, ils ne vont plus jamais rien faire pour nous vexer, nous offenser. Et on s'attend ça de tout le monde. Mais souvent, on est déçus, n'est-ce pas? Quand on attend la perfection des gens, je vous assure, vous allez être déçus. Si j'attends la perfection de mon mari, je vais être déçue. Parce qu'il n'est pas homme parfait, tout comme moi, je ne suis pas femme parfaite. Tu vois, il me voit quand je me réveille le matin, je ne suis pas encore maquillée, je ne suis pas encore bien habillée. Et ce n'est pas tout à fait la même chose qu'après avoir passé du temps dans la salle de bain. C'est comme ça. Et on met des expectatives trop élevées pour nos frères et sœurs en Christ. Et à cause de ça, on se laisse être blessés. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu parce que j'ai déménagé pas mal de fois. Donc j'ai vécu en France, aux États-Unis, dans 2 États, en Norvège, puis de retour en France. Et j'ai vu beaucoup de gens blessés dans les églises. Et ça m'attriste. parce que nous, par notre façon de penser, en s'attendant qu'ils soient parfaits, on les laisse nous blesser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un auteur qui a dit « Une forteresse est un lieu dans lequel nous sommes retenus captifs à cause d'un mauvais raisonnement. » Mais c'est notre mauvais raisonnement. Et lorsqu'on est offensé, on se met dans une forteresse et on reste bloqué, on reste figé et on ne permet plus à l'amour de couler, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et un auteur, James Allen, c'est un auteur américain, il dit « Tout ce qu'un homme réussit ou échoue est un résultat direct de ses pensées. » Donc c'est à nous de contrôler nos pensées, de gérer les choses auxquelles on réfléchit. Et on a quand même le monde à cœur, n'est-ce pas? On n'a pas à cœur de rester entre nous, chrétiens, frères et sœurs, on s'isole quelque part et on reste que nous. On a à cœur de toucher le monde. On a besoin de donner envie au monde de se joindre à nous. Et donc, on a besoin, de par nos attitudes, nos rapports les uns avec les autres, qu'ils aient envie de se joindre à nous. Et j'ai entendu beaucoup de personnes non-croyantes qui ont dit « Mais on critique tellement dans les églises, moi, j'ai pas envie d'y aller. » Vous avez déjà entendu ça ou c'est que moi qui ai entendu ça? D'accord, on est honnête, c'est déjà bien. Et juste, révélation, la critique n'est pas un don de l'esprit. D'accord? Et le cynisme ne l'est pas non plus. C'est pas le discernement, c'est pas un don de discernement, pas du tout. La critique et le cynisme, c'est pas un don de l'esprit. Et moi, étant anglaise, donc je suis anglaise-américaine, mon père anglais, ma mère américaine, le cynisme, c'est un truc qui est imprégné dans notre culture. Vous avez déjà entendu des blagues anglaises ou des, c'est, on dit une blague, mais après on rigole pas. Et les gens, ils savent pas s'ils sont censés rire ou pas, ou, c'est un peu, c'est de l'humour un peu noir. Et donc, pour moi, je suis arrivée dans une organisation chrétienne. Ils ont dit, non, mais ici, on n'accepte pas le cynisme. Donc, les Anglais et les Danois, qui ont un sens de l'humour assez proche, ils ont dit, mais nous, on est comme ça. C'est notre culture. On est comme ça, on est cynique et on va se moquer des gens de façon cynique et tout ça. Mais lorsqu'on rentre dans le royaume de Dieu, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on a une nouvelle culture. D'accord? Et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est à nous d'aller de l'avant et se dire, ok, je me détache de peut-être ma culture généalogique ou quoi, et je vais aller de l'avant. Amen. Donc il faut apprendre quelle est notre nouvelle culture. Et ça, Philippe va en parler un peu plus tout à l'heure. Et tout particulièrement, tu ne peux pas avoir ce que tu critiques. Donc si tu es en train de critiquer des gens qui reçoivent leur guérison ou qui prêchent la guérison divine, t'attends pas à recevoir ta guérison. Si tu critiques les gens qui prêchent sur la prospérité financière et après, toi, tu es là, tu n'as pas l'argent pour faire ce que tu as à cœur de faire, c'est ta faute. Quand tu critiques quelque chose, quand tu dis « Ouais, mais pourquoi ils font ça comme ça ? Je ne suis pas d'accord » et tout ça, tu es en train de te mettre dans une forteresse et te retenir par ton mauvais raisonnement. Je suis d'accord, il y a des choses qui sont passées dans les extrêmes. Je suis tout à fait d'accord. J'ai entendu des histoires que je ne répéterai pas parce que ce n'est pas la gloire de Dieu. De la part de serviteurs de Dieu. Mais personne n'est parfait. On va tourner dans quelques passages. En anglais, on a une Bible amplifiée. Malheureusement, ça n'existe pas en français. Donc j'ai fait de mon mieux. Vous allez excuser mes erreurs de français, s'il vous plaît. J'ai traduit un petit peu la Bible amplifiée. Donc ça va être à l'écran parce que ça expands. Ça étire le verset. Et ça prend toutes les significations possibles et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc on va tourner, vous pouvez tourner dans votre Bible aussi. Hein. En Jacques 3, verset 2, ouais. « Car tous souvent nous trébuchons, tombons et offensons dans beaucoup de choses. Et si personne n'offense dans ses paroles, ne dit jamais quelque chose de faux, il a un caractère complètement développé et est un homme parfait, capable de contrôler tout son corps et de changer entièrement sa nature. » Ce qui veut dire, en gros, qu'on n'est pas des hommes parfaits ou des femmes parfaites, et que malheureusement, on va dire des choses qui sont fausses. On va se tromper, on va... Malheureusement, ce n'est pas notre objectif, on est bien d'accord. Mais c'est des petites choses, et souvent, on s'attend à ce que des enseignants, ou des pasteurs, ou des prédicateurs, soient des personnes parfaites. Donc, étant fille de prédicateur, j'ai vu ça énormément. Des gens qui s'attendent à ce que ce soit la perfection, et on les met sur un piédestal, presque pour les voir tomber. N'est-ce pas? On les met sur un piédestal et après on cherche la petite bête. C'est vrai ou pas? Ok. vous savez, c'est pas vous de vous inquiéter de si leur théologie est correcte ou pas. C'est pas votre problème. Votre problème est de recevoir ce que Dieu a envie de vous partager parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire Et c'est eux qui vont se tenir devant Dieu pour ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Tout comme vous. Et donc, quelque part, vous n'avez pas besoin d'être le Saint-Esprit pour ces personnes-là. C'est un... C'est... Comment dire? It's a relief. C'est un soulagement. C'est du travail en moi. Vous n'avez pas besoin d'être leur Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'aller voir Pasteur Christophe après. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez Pasteur Christophe. Vous n'avez pas besoin d'aller voir Christophe après et lui dire « Ah, mais tu sais, tu t'es trompé là, 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 là. » Le Saint-Esprit va lui dire, je t'assure, à la fin d'une prédication, quand tu as fini et tu as fait une erreur, le Saint-Esprit va te dire « Et après, tu vas être assez mal toi-même. Tu n'as pas besoin que toute l'Église vienne te dire que tu as fait une gaffe. » Je vous assure. Et donc, c'est bon. Relaxez-vous. Vous contrôlez votre vie. Vous gérez votre vie. Le Saint-Esprit va vous révéler les choses où vous devez changer et va leur révéler les endroits où ils doivent changer. Donc c'est pas une, c'est pas censé être un joug, mais c'est censé être un soulagement. Et ceci encore plus pour les nouveau-nés. Quand les gens rencontrent Jésus, qui viennent de rentrer dans la famille, on s'attend pas à ce qu'un bébé soit parfait. On s'attend pas à ce qu'un bébé parle le français de plus correctement, qu'il fasse des phrases complètes avec le passé composé, etc., le futur. Qui était là quand David Garcia nous a fait tout un cours de conjugaison. Moi, j'étais impressionnée. Hein. Franchement, j'ai fait l'école en français, mais j'étais impressionnée. Mais notre objectif, c'est de voir ces enfants en Christ grandir. Mais comment est-ce que tu aides un enfant à grandir? En le corrigeant sans cesse? En lui disant constamment qu'il s'est trompé, qu'il n'avance pas, qu'il n'arrive pas, et le critiquant? Tu demandes à n'importe quelle mère, la chose qui va aider l'enfant le plus à grandir, c'est l'amour. C'est le fait de l'encourager, de se lever quand il trébuche. Si l'enfant il court et qu'il se prend le poteau, tu vas pas lui crier dessus. C'est vrai ou pas? Ce serait un peu fou. Mais si un enfant court et qu'il se prend le poteau parce qu'il a pas vu, tu vas l'aider à se relever, tu vas voir s'il va bien. On devrait faire la même chose avec les nouveau-nés. Des fois, on s'attend à ce qu'ils arrêtent tout du jour au lendemain. Plus de ci, plus de ça, plus de ça. Il faut s'habiller correctement. Il faut pas fumer, il faut pas faire ci. Mais, oh, vous étiez parfait du jour au lendemain quand vous acceptez Jésus? On n'est pas encore parfait. N'est-ce pas? Il faut donner de la compassion. On est là pour les aider à grandir, à mûrir dans le Seigneur. Et c'est à nous de les aider. On va regarder en 1 Timothée 1, 5 et 7. Donc c'est long, je sais, mais je vais le lire. Verset 5. Mais notre objectif et le but de notre instruction, ainsi que notre mandat, c'est l'amour. Ce qui jaillit d'un cœur pur, une bonne conscience claire et une foi sincère. Mais certains individus ont loupé le coche sur ce sujet précis et ont erré dans de vains discours, arguments et des paroles sans but. Ils aspirent à être des docteurs de la loi, mais ils n'ont pas la compréhension des paroles, ni des termes qu'ils utilisent, ni même des sujets sur lesquels ils font des assertions dogmatiques. Donc des assertions dogmatiques, au cas où. C'est des affirmations par rapport aux termes religieux. C'est-à-dire, tu ne dois pas faire ci. Et la loi, c'est ça. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ok, mais on n'est pas sorti de la malédiction de la mort pour rentrer dans un endroit où on est tout. Et si tu erres un petit peu du chemin, tu vas te faire, envoyer des éclairs de tonnerre de la part de Dieu. Les gens, ils pensent ça de Dieu. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Et donc nous, en tant qu'Église, en tant que son corps, le représentant, ça nous démontre cet amour. Et il faut le faire avec passion et compassion, pas avec jugement, critique et comparaison. Parce que tout d'abord, c'est Dieu qui connaît leur cœur. Donc, comme j'ai dit, on n'a pas besoin de le Saint-Esprit. Et deuxièmement, ce n'est pas nous qui devons rendre des comptes. En tant qu'équipe pastorale, il y a un temps où leadership, comme vous appelez ça ici, il y a des moments où il y a des gens avec qui il faut avoir des discussions pour essayer de les aider. Mais c'est toujours fait dans l'amour. Je connais votre équipe de leadership et je sais que leur désir pour vous, c'est que vous grandissiez spirituellement. C'est jamais pour vous amener la culpabilité ou la condamnation. Et ça, il faut le recevoir. Mais ensuite, autrement, vous rendez des comptes à Dieu et les gens autour de vous rendront des comptes à Dieu. Donc, c'est pas à vous d'aller les prendre et dire « T'es tout hier soir? T'es sorti à quelle heure? T'es rentré à quelle heure ?» Des fois... mon chéri est journaliste. Et il a des manières parce qu'il doit écrire des articles, donc il a beaucoup de questions. Et des fois, je rentre, et la plupart du temps, on est ensemble, mais des fois, je rentre et il me demande une série de questions. Je fais « Oui, monsieur. Non, monsieur. » Puis après, il comprend. Mais de toute façon, je vais lui dire, parce que je sais qu'il a le meilleur à cœur, et de toute façon, je n'ai absolument rien à lui cacher. Mais des fois, quand on te fait un interrogatoire, t'as plus envie de retourner. Je parle pas de lui, je parle en général. Mais de façon générale, quand on te fait un interrogatoire, t'as plus envie de retourner. Donc si à chaque fois qu'un nouveau-né vient à l'église et qu'on l'interroge sur sa semaine, sur ce qu'il a fait, qui l'a vu, est-ce qu'il a fait ci, est-ce qu'il a fait ça, tu peux avoir une conversation normale sans que la personne soit remplie de culpabilité ou de condamnation, n'est-ce pas? Et aussi, une autre chose, c'est souvent, comment dire, il y a beaucoup de prédicateurs différents, beaucoup de personnalités différentes, et certaines personnes, on peut recevoir d'elles, et d'autres personnes, c'est peut-être pas la personnalité. Tout comme on a des amitiés avec certaines personnes, parce qu'il y a un lien, une connexion, et avec d'autres, peut-être un peu moins d'affinité. Et souvent, il y a des... notre cher ami David Garcia. Je parle de lui parce qu'on a passé du temps avec lui aux États-Unis, donc il y a quelques semaines, puis on s'est éclaté, mais oh, on riait, mais en plus, il venait de se faire retirer les 4 dents de sagesse en même temps, il n'avait pas le droit de rire. Ça craignait, c'est vraiment grave. Mais il a, quand il prêche, il a un sens de l'humour, mais moi, je le trouve génial. Mais certaines personnes, peut-être qu'elles n'apprécieraient pas ça autant. En général, les gens aiment rire. Il y a d'autres personnes, peut-être, qui sont un peu plus style showman. Et ils sont vraiment très expressifs. Il y en a d'autres, comme ma mère, pour ceux qui vous connaissent, qui ont un rire très, très expressif. Certains, ça agace. D'autres, ils aiment absolument. Et puis, ils écouteront tout ce qu'elle a à dire à cause de ce rire. C'est vrai. Mais ce n'est pas à nous, parce qu'on n'aime pas la façon dont ils apportent la parole, non plus de constamment les critiquer. Eux, ils ont un mandat spécial de la part de Dieu pour toucher certaines personnes. Peut-être cette personne, c'est vous, peut-être pas. Mais certaines personnes qui vont recevoir de gens qui ont un sens de l'humour parce qu'ils les font rire. Et ils ouvrent leur cœur parce qu'ils sont touchés par cette personne-là ou cette personnalité ou quelqu'un qui partage un témoignage très fort. Comme des femmes qui partagent des témoignages sur un sujet spécifique par rapport à des choses qu'ils ont pu passer dans leur enfance. Les femmes vont peut-être recevoir de ça, les hommes peut-être pas. Mais c'est à nous de laisser notre cœur ouvert et pas d'être constamment « Ok, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter ? J'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. » Et moi je dis, quand tu vas à une réunion, où tu viens pour recevoir, où tu viens pour donner. Mais la troisième catégorie, c'est spectateur. Mais en général, les spectateurs sont aussi les critiques. C'est comme les critiques de films. Ils y vont, ils sont là, ils apprécient pas forcément, mais ils sont là, ils critiquent, ils mettent des notes constamment. Mais au résultat, ils n'ont pas retiré grand-chose. N'est-ce pas? Donc nous, on est là pour être ou acteur ou pour recevoir. Tu vois, si l'équipe de louange est là pour donner à travers la louange, mais elle est aussi là pour recevoir après par la suite. N'est-ce pas? Mais on est là tous pour... Et une fois... Ok, ça c'est une toute autre sujet, mais je fais court. Si vous pensez que vous ne pouvez plus recevoir dans un endroit et que vous n'êtes pas impliqué dans l'église, c'est à vous de vous bouger et de vous impliquer dans l'église parce que c'est là où vous allez continuer à recevoir. Okay. Moi, j'aimerais bien qu'on dise ça à mon église aussi, donc je me permets de le dire ici. Alors, en 1 Thessaloniciens 2, 34, 3, 4, oui, excuse-moi. Mais notre appel en prêchant n'a pas son origine dans le délire ou l'erreur, ni d'objectif ou motif impur, ni dans la fraude ou la tromperie. Mais tout comme nous avons été approuvés par Dieu d'avoir été confiés la bonne nouvelle, l'évangile, alors nous parlons non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Lui qui examine nos cœurs, s'attendant de les trouver approuvés. Donc ça, c'est par rapport aux personnes qui apportent la parole aussi. Comme je disais tout à l'heure, Christophe, il sait s'il a manqué le coche dans son message. Parce que le Saint-Esprit va lui dire. Donc lui, il se tient devant Dieu et c'est Dieu qui va lui dire comment ça se passe. Et puis, on est là pour recevoir, pas pour critiquer. On continue. Et Hébreux 4, 12. Car la parole que Dieu parle est vivante et remplie de puissance, faisant qu'elle soit active, opérationnelle, énergisante et effective. Elle est plus aiguisée qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à la ligne qui divise le souffle de vie, l'âme, et l'esprit éternel, ainsi que les jointures et moelles, les parties les plus profondes de la nature. Écoutez ceci. Exposant, affinant, analysant et jugeant les pensées et les objectifs du cœur. La parole de Dieu fait ça. Donc si la parole de Dieu fait ça, je vous assure, parce qu'il peut voir aussi profondément que ça, nous, on n'a pas besoin de faire ça pour les autres. Verset 13. Pas une seule créature n'existe qui est cachée de sa vue. Mais toutes choses sont ouvertes, exposées, nues et sans défense devant les yeux de celui à qui nous avons affaire. Et justement, Jésus, quand il voyait les gens qui étaient dans le péché ou qui ne faisaient pas forcément ce qu'ils étaient censés faire, qu'est-ce qu'il lui faisait ? On est censé le représenter ici sur Terre, n'est-ce pas ? On est ses ambassadeurs, son corps. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment Jésus réagissait ? Vous pouvez répondre à voix audible. Exactement. La Bible dit qu'il était ému de compassion pour les gens. Et il y a 9 passages juste dans les évangiles où il disait qu'il était ému de compassion. Et à cause de cette compassion, il agissait, il aidait les gens. Il nourrissait les 5000, plus les femmes et les enfants. Il guérissait les malades. Il les aidait à rentrer dans cette autre dimension de vie. Parce que les pharisiens, les sadducéens, qu'est-ce qu'ils passaient leur temps à faire ? À critiquer, à juger, à remettre les gens dans leur place, pas forcément avec amour. Et nous sommes appelés à être Jésus, pas comme les pharisiens. Nous sommes sous cette nouvelle alliance. En Philippiens 4, 8, donc ça vous pouvez trouver dans votre Bible. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et donc c'est ces choses-là auxquelles on doit penser. Envers nos frères et sœurs en Christ, aussi les gens qui sont dans le monde à qui on veut partager cette bonne nouvelle. Et c'est à nous de chercher les bonnes choses en eux, de les faire ressortir. Parce que je vous assure, les gens dans le monde, ils ne recherchent pas le meilleur pour les gens autour d'eux. On était avec des amis récemment et ils ont une habitude de se critiquer tous constamment. Et ce n'est pas une ambiance où on grandit, on ne sort pas de là vivifié, encouragé, aller de l'avant. On est plutôt un peu, ok, bon, bah, la prochaine fois, il faut que j'arrive avec des vannes pour me défendre. Mais ça craint. Et dans l'église, ça ne devrait pas être comme ça. J'ai déjà été dans une église, c'était comme ça, constamment. Et on peut devenir très, très dur, mais après, on ne reçoit plus des gens. Et aussi, dernièrement, pour vos leaders, donc dans l'église, vos leaders spirituels, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, priez pour eux. Parce que lorsque vous priez pour quelqu'un, vous ne pouvez pas être dans l'offense avec eux et vous n'allez pas continuer à les critiquer. Priez que le Saint-Esprit leur parle ou qu'il vous parle. Parce que peut-être c'est vous qui vous êtes trompé aussi. N'est-ce pas ? Donc je vous encourage vraiment de prier pour vos dirigeants, d'être émus de compassion et vraiment que les chrétiens soient reconnus pour leur amour les uns envers les autres. Qu'on soit plus reconnus pour être des gens qui se mettent des couteaux dans le dos. N'est-ce pas ? Mais qu'on soit vraiment reconnu dans cette ville de Bienne, dans la Suisse romande, dans la francophonie, pour des gens remplis d'amour et de compassion, qui vont aller, comment on dit en anglais, le kilomètre de plus pour aider son prochain, pour l'aider à grandir, à aller de l'avant. On a besoin de ça, vous avez besoin de ça. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer le royaume de Dieu. Donc en anglais, après je vous traduirai, j'ai « share the love and help people to chat with God ». Partager cet amour et aider les gens à avoir envie, en plus, de chatter avec Dieu. Donc maintenant, je laisse la parole à Monsieur Boulanger.
Glory, glory, glory. J'étais aux États-Unis, un pasteur, il dit toujours glory, glory, glory. C'est bon d'être parmi vous, de retour à la maison. Si vous pensiez que j'étais parti, et vous alliez vous libérer de moi comme ça, ben vous vous êtes trompé. C'est un plaisir d'être avec vous et chat with God. J'entre directement dans le sujet. Chat with God. Je me suis un petit peu demandé à quoi ça pouvait référer et comment ça pouvait me parler, ce sujet-là. Et quand tu es sur Internet, tu chattes, n'est-ce pas ? Chat, ça nécessite une connexion. Et je sais pas vous, mais moi, quand ma connexion elle fonctionne pas, c'est frustrant. Ou quand mon téléphone portable il a un problème de réseau, c'est également un sujet de frustration. Mais en fait, on a été connecté avec Dieu. On a été connecté d'une manière pour parler avec Dieu. Et cette connexion, elle est infaillible. Et c'est le sujet que j'ai envie de vous démontrer ce soir, où je vais vous partager un passage que qui a mûri, qui a germé à l'intérieur de moi pendant des semaines. Je me suis dit, mais ce passage, il est tellement puissant que j'ai pas compris tout ce qu'il révélait. Et par mon intelligence humaine, j'essayais un petit peu de le tourner dans tous les sens. J'essayais de dire, mais Seigneur, il y a quelque chose de puissant dans ce passage. Il y a quelque chose d'incroyable dans ce passage, mais je ne le comprends pas. Et j'essayais de verser, d'aller dans les versets, dans la Bible, et jusqu'au moment où, à ouvrir dans 1 Jean 5, donc la première épître de Jean, juste avant le livre de l'Apocalypse, il y a Jude juste avant, et les autres épîtres de Jean. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Et il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. J'ai lu la Bible amplifiée en anglais qu'elle mentionnait. Il y a un passage qu'ils ont ajouté. Le Père, le Fils et Saint-Esprit sont en accord. Et ce n'est pas mentionné ici dans la version second en français. Mais après, ils disent que sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang sont d'accord. Ça mérite méditation, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça révèle, ça? Il y a des choses incroyables dans ce passage. J'étais là, mais j'ai creusé. J'étais avec ma femme, mais le sang, je comprends bien. Le sang, c'est le pardon des péchés. Le sang représente le fait qu'on a été lavé, purifié, parce que le sang de Jésus était pur. Le sang, ça ne me posait pas trop de problèmes dans ma compréhension du passage. Après, j'ai vu l'esprit. L'esprit, c'est tout ce qui a à faire avec l'esprit de la vérité. L'esprit, on le retrouve dans sanctification. L'esprit nous sanctifie. L'esprit nous emmène dans toute la vérité, etc. Je me suis dit, mais l'esprit, j'arrive à capter. Mais l'eau. J'étais là, mais dans ce passage, ça veut dire quoi, l'eau? Le sang, l'esprit et l'eau. L'esprit, le sang de Jésus. L'eau, j'essayais de dire, ouais, mais peut-être c'est Dieu, l'eau. Après, je lisais les passages avec l'eau, je regardais dans Psaume 1, je cherchais avec ma tête. Mais la parole de Dieu dit qu'il y a là une certaine connaissance naturelle. Quand je vais au cours, quand je vais dans mon école, il y a une connaissance que je peux acquérir naturellement. 1 plus 1 égale 2. A au carré plus B au carré égale C carré. Bref, tous ces théorèmes là que vous avez pris avec votre connaissance naturelle. Mais en fait, une fois qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous et avec la parole, parce que l'Esprit et la parole sont d'accord, il y a les connaissances par révélation. Ouh, j'aime parler quand c'est la connaissance par révélation. Et j'étais là, l'eau. Et après, j'ai laissé ça. J'ai arrêté d'essayer par moi-même. Je me suis dit, ah, je laisse ça reposer un petit moment. Et tout d'un coup, j'étais en train de lire un mini-livre. Pas du tout en relation avec le passage, au cas où. Hein. J'étais en train de lire le mini-livre et tout d'un coup, ça fait pfff, comme ça dans ma tête. Alors que j'essayais pas de chercher la compréhension de ce passage, ça fait pfff. L'eau, c'est l'identification. Je me suis dit, Seigneur, tu parles en termes compliqués, là. Identification, c'est quoi? Identification, j'ai ouvert mon Larousse, hein, ça arrive encore. Action d'identifier, de s'identifier. Identification considérée comme identique ou ne faire qu'un. Et je me suis dit, mais alors cette identification, le fait de faire qu'un, mais c'est quoi? Tournons en Matthieu 4. On va quelque part là ensemble. On va en Matthieu 4 et on parle de chat with God, on parle d'être connecté avec Dieu et que cette connexion est infaillible. Juste avant qu'on lise Matthieu 4, je vais demander à Jérémy si tu peux mettre la première photo. La couverture du bouquin, là. Voilà. Je vous présente un gars qui s'appelle Brian, comment c'est, Welsh, surnommé The Head. Ce gars-là, c'était le guitariste principal du groupe Korn. Qui c'est qui connaît le groupe Korn? Vous avez déjà entendu parler? C'est du son assez lourd, hein. Il faut s'accrocher, hein. Et puis, je commençais à lire son bouquin, je ne l'ai pas encore fini. Et puis, j'ai vu cette couverture, je me suis dit, oh purée, lui, il a pas l'air bien, quoi. C'est quand même assez interpellant, cette photo. Je me suis dit, mais ouais, bon, il a plein de tatouages, il a une longue barbe, mais je trouvais que son regard, il était bizarre. Il commençait à raconter son histoire dans le bouquin. Tu peux mettre la photo suivante? Et ça, c'est le même gars. Il a gardé ses cheveux longs, il a gardé sa barbe, mais regardez le regard. On fixe le regard du gars, il est avec sa fille, là, et on revient à la précédente, si tu peux. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ce gars. Comment le gars, il était guitariste principal du groupe Korn, il a galéré pendant sa jeunesse pour faire ses gammes et tout ça, il était en train de vivre son rêve. Guitariste principal du groupe Korn, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des millions. Les concerts, c'est des millions. Peut-être un groupe dans les années 90 ou 2000, que j'entends, vous connaissez ce nom du groupe Korn. Le gars, il vit son rêve, mais il n'était pas à l'aise, il n'était pas bien à l'intérieur de lui. Bon, ben, vie de rockstar, quoi. Hein, comme, pas besoin de donner les détails, mais bon, drogue, sexualité extrême et tout ça, il raconte. Et j'aimerais que tu mettes la troisième photo maintenant. Entre la première photo et la deuxième photo, il y a quelque chose qui a changé. Et ce gars, Brian Welch, dit the head, ça veut dire la tête, ça veut dire qu'on titille un petit peu quand il était jeune parce qu'il avait une tête un peu disproportionnée. Et bien là, il est en train de se faire baptiser. Et en fait, l'identification, c'est Christ. Jésus, il est venu s'identifier à nous. Il est venu s'identifier à nous avec l'eau. L'eau, le baptême. Et quand j'écoute, je me dis, attends, Seigneur, là, il y a plus, là. Là, il y a plus. Il est venu s'identifier avec nous. La première photo, le gars, je ne sais pas si on le voit, on dit, mais purée, lui, il ne doit pas avoir une vie très saine. On voyait qu'il y avait le péché dans sa vie. La deuxième, on le voit épanoui, on le voit avec sa fille, bien et tout. Jésus, qui était parti de la sainteté, parti de la Trinité, le gars qui était saint avec le Père, Dieu l'a envoyé pour s'identifier à notre péché. Il a envoyé pour s'identifier à notre péché. Tu peux remettre la photo du baptême. Et j'aimerais que ça, on puisse saisir. Cette identification, que Jésus est venu s'identifier. Il était à la gloire. La gloire lui appartenait. La vie éternelle lui appartenait. Il a été dépouillé. Dépouillé de toutes les choses célestes. Dépouillé de l'or. Dépouillé des perles. Dépouillé de toute cette gloire qui était dans les cieux. Pour venir et s'identifier à notre péché. Et ce gars-là, il est en train, non seulement Christ nous a identifié avec notre péché, mais lui, il est en train d'être identifié avec Christ. J'ai pris cette photo parce que je ne sais pas comment Christ, de quoi il avait l'air, mais avec ses longs cheveux et sa barbe, là, au moment du baptême, lui, il est en train de se faire identifier avec la gloire de Dieu. Et il y a un autre passage que je n'ai jamais vraiment compris, c'est le baptême de Jésus. Je me dis, mais Jésus, il n'avait pas besoin d'être baptisé. Le baptême de repentance, c'est les pécheurs qui font le baptême de repentance. Quand on est immergé dans l'eau, le baptême, ça veut dire immersion, ça veut dire qu'on détourne notre ancienne vie qui était celle du péché pour entrer dans une nouvelle vie. Je me dis, mais Jésus, il n'a pas besoin de ça. Il était parfait, c'était le Fils de Dieu. Mais étant donné qu'il a été dépouillé, certaines fois on met l'accent sur la divinité de Jésus, et amen, Jésus était divin, mais il était homme. Il a été dépouillé de cette gloire du Père. Il est pour s'identifier à notre péché. Lisons Matthieu 4. Matthieu 3. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors que je lis ce passage, un jour, une autre connaissance par révélation est venue, mais la même chose. Hein. Oh, identification. Baptême de Jésus, préfiguration. J'ai rouvert mon Larousse une deuxième fois. Je me suis dit, mais Seigneur, préfiguration, le baptême de Jésus est une préfiguration. J'ai cherché dans le dictionnaire. Préfiguration, c'est-à-dire ce qui préfigure quelque chose. Présenter par avance tous les caractères d'une chose à venir. Et étant donné que Jésus s'est identifié à nous, Jésus s'est identifié à notre péché, eh bien, il a dû se faire baptiser. Il s'est mis à tel point à notre niveau. Il s'est mis à tel point. Il s'est tellement identifié, mis, il est devenu une plante avec nous, qu'il a dit, non, il faut que je me fasse baptiser, il faut que je montre l'exemple. Mais une préfiguration de quoi ? Présenter par avance tous les caractères d'une chose à venir. Et Jean ne lui résista plus. Dit que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les yeux s'ouvrirent. Ça préfigure quoi le baptême ? Jésus était en train d'annoncer sa mort et sa résurrection à la croix. À ce moment-là, Jésus, cette préfiguration du baptême, cette identification avec nous, avec la nature de péché, avec le péché, Jésus se fait baptiser. Mais en même temps, il est en train d'annoncer sa mort et sa résurrection à la croix. Donc lui, il est descendu, il s'est identifié à nous. Mais ça n'est pas resté là. C'est pour que nous, on soit identifiés à sa gloire. C'est pour que nous, on devienne cette même plante avec lui. C'est pour que nous, donc là Jésus, il annonce, mais je descends dans l'eau. Autrement dit, mais je vais être cloué à la croix. Je vais descendre dans les régions inférieures de la terre. Pourquoi ? Parce que mon Père a décidé, Ésaïe 53, que selon son bon plaisir, il fallait que je fasse ça. Quoi ? Jésus dans les régions inférieures de la terre ? Jésus en enfer ? Blasphème ! Apocalypse 1, Jésus est descendu. Il est allé chercher les clés. Il est descendu dans le séjour des morts. Oui, Christ a passé 3 jours. 3 jours pour chercher ta clé. 3 jours pour que tu sois identifié à lui lorsqu'il sera amené à son Père vers sa gloire. 3 jours. Vous pouvez lire Acte 2. Vous pouvez lire Apocalypse 1. Vous pouvez lire 1 Pierre 3. Oui, mais tous ceux qui sont nés sous l'ancienne alliance, comment ils font ? Ils n'ont pas connu Jésus. Et alors qu'il était dans le séjour des morts, 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, nous, dans quel but ? Afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. Non seulement il est allé chercher ta clé, quand le ciel s'est ouvert, s'est fermé, au baptême, le ciel s'est ouvert, l'esprit est descendu. À la crucifixion, le ciel s'est refermé, l'esprit est remonté. Et à ce moment-là, Jésus a été crucifié à 9h du matin. À midi, l'obscurité a commencé à couvrir la terre. À 3h, Eli, lama, sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il a rendu son esprit, le voile s'est déchiré. 3 jours durant, il allait chercher les clés du royaume. Il allait prêcher la bonne nouvelle aux captifs qui étaient en prison. Tous ceux qui étaient sous l'ancienne alliance. Il allait leur prêcher la bonne nouvelle. Et après, on continue à lire la parole. Il a commencé à leur dire ressuscité. Parce que Jésus n'est pas resté dans le séjour des morts. Comme il est ressorti de l'eau lors de son baptême, il annonçait déjà sa résurrection. Il annonçait déjà sa résurrection et sa gloire et sa montée à la droite du Père. Il est à la droite du Père, intercédant pour nous. Il s'est identifié à nous, à notre péché, pour que nous, d'une même plante, on soit identifié à sa gloire. Il est descendu comme une graine. Imaginez une plante, une graine que l'on plante dans la terre. Il est allé la planter. Il a dit, pour Steve, pour Christophe, pour Ismaël, pour Samuel, je plante cette graine. Et après, on est comme une plante. Et lorsque je monte vers la gloire de mon Père, je les emmène avec. Dieu s'est identifié à nous. Jésus s'est identifié à notre condition pour qu'on s'identifie à sa gloire. Lorsqu'il s'est fait baptiser, il annonçait sa mort et sa crucifixion. Et après, vous pouvez lire Romains 6 qui parle aussi du baptême, à quel point on s'est identifié avec lui pour être après identifié dans sa gloire. Et je vais terminer là-dessus. Chat with God. c'est dans l'Ancien Testament comme il devait ouvrir les animaux et le sang, les boucs, les veaux, pour pouvoir accéder dans le Saint des Saints. Mais Jésus, avec son sang parfait, il est allé une bonne fois pour toutes dans le lieu, dans le Saint des Saints. Non pas avec des sangs d'animaux, mais avec son sang pur, parfait. La nouvelle alliance est là. La nouvelle alliance ou la nouvelle connexion. Ta connexion s'appelle Jésus. Et cette connexion, elle est infaillible. Cette connexion, elle est parfaite. Cette connexion, elle est pure. Cette connexion, elle est glorieuse. Oui, mais attends, l'autre fois, là, j'ai fait quelque chose de pas top. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. C'est ce qu'il a fait pour toi. Toi, tu t'identifies à lui. Tu dis oui, Seigneur. Viens dans ma vie, je m'identifie à toi. C'est toi qui es monté au ciel, je vais monter avec toi. Je me comme une plante ensemble, on va monter. Est-ce que ça donne un droit pour le péché? Pas du tout. Paul dit, loin de là, ça ne nous donne pas le... Parce que si on pêche, la parole nous dit, mais qu'il est bon, juste et fidèle pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Donc ta connexion avec Dieu, même si tu tombes, relève-toi. Confesse ton péché. Dis, Seigneur, j'ai fauté, c'est pas grave. Mais ma connexion, c'est Jésus. Et chat with God all the time. Parle à Dieu tout le temps. La connexion, elle n'est pas intermittente. Elle n'est pas à 20h, ça bourre parce qu'il y a trop de monde. Tu peux parler à ton Père grâce à ce qu'a fait Jésus. Connexion parfaite, connexion pure, connexion magnifique, connexion glorieuse. Parle avec... La première fois que j'appelais Rebecca, j'étais un peu tendu. C'était bizarre. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais faire? Est-ce que je vais être naturel? Est-ce que je vais être moi-même? Est-ce que je ne vais pas être tendu? La première fois que je vais la voir, comment je vais m'habiller? Est-ce que plutôt des contrats, plutôt sérieux? Au début, c'est peut-être bizarre que tu parles à ton Dieu. Mais sois vrai avec lui. Parle-lui tout le temps, dans ta douche, dans ta voiture, avant de te coucher. Tout le temps, c'est accessible. La connexion est parfaite. La connexion est parfaite. Pas de problème d'intermittence. Pas trop de monde sur le réseau. Tu peux lui parler tout le temps. Parce que Jésus est venu te chercher. Il t'a dit, la connexion, c'est moi. C'est Jésus. Par lui. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous. Que vous pouvez lui parler tout le temps. En tout temps, en tout moment. Il est là, accessible, à vous entendre. Est-ce qu'on appelle le groupe de louanges à revenir? Ah. Tu pourrais remettre la dernière photo du temple, s'il te plaît? Encore ajouter deux choses. On était en voyage de noces à La Réunion et à l'île Maurice. Et voici un temple tamoul. Et pour entrer dans le temple, il fallait enlever ses chaussures et il fallait faire 3 jours de jeûne, 3 jours de carême pour accéder dans le temple. Mais si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et surtout que vous avez confessé sa résurrection, c'est ça qui est important. C'est là qu'est la victoire, c'est dans la résurrection. Parce que Paul dit, si vous ne croyez pas en la résurrection, vous êtes les plus misérables. Pas moi qui le dis, c'est Paul. Hein. Mais 3 jours, enlever les chaussures, 3 jours de jeûne, pour une sorte de purification, quoi, une sorte de rite pour accéder dans le temple. Mais vu que la connexion est parfaite avec Jésus, tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu l'as accepté dans ton cœur, si tu l'as confessé comme Seigneur Jésus et comme Sauveur, tu peux parler avec lui en tout temps. Et au début, moi, je savais pas comment parler avec Dieu, tu vois. Je parlais avec lui seulement des choses positives. J'étais là, ah ouais, Seigneur, j'ai passé une bonne journée, c'était super. Et chaque fois que j'étais mal, un peu tourmenté, je me taisais. Je me suis dit, ouais, Seigneur, il a pas le temps d'entendre ces choses-là. Et après, j'ai rencontré une fille en Afrique du Sud et elle me dit, tu sais, moi, je parle à Dieu tout le temps. Je parle à Dieu tout le temps. Quand je suis fâché, quand je suis triste, quand je suis heureuse, elle me parlait de ça. Et moi, j'étais encore assez jeune dans le Seigneur et ça m'a vraiment parlé, tu vois. Je me suis dit, mais attends, mais je peux y parler tout le temps. Et je vous dis, les plus beaux moments que vous allez passer avec Dieu, ça va peut-être être des moments de souffrance. Des moments où tu es là, tu es en train de prier pour les tiens. Des moments où tu es là, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Et tu lui parles, et tu déverses ton cœur avec lui. Tu dis, mais Père, donne-moi compréhension sur ce sujet. Donne-moi compréhension dans cette situation. Et tu es là, et tu pleures, et tu dis, Seigneur, fais quelque chose dans cette situation. Et tu vas sentir une telle intimité avec lui. Tu vas sentir une telle communion avec lui.
tu vas sentir cette identification, cette même plante avec toi, va dire, mais je te comprends. Je te comprends dans ces situations-là. Je suis venu te chercher. Je connais ta condition d'homme. Je te connais comme si je t'avais fait. Christophe, tu veux bien venir?
Alléluia, merci beaucoup Philippe, Rebecca. On va prendre un chant maintenant et suite à ce chant, on a envie de passer un temps spécial. On ne fait pas tous les dimanches, mais on a envie de passer un temps spécial où on va prier pour des gens ici devant. Donc si tu as besoin ce soir de recevoir la prière, que Dieu te touche d'une manière ou d'une autre, bien que tu as besoin, comme de reconnecter avec Dieu, le modem s'est déconnecté, là il faut juste une petite reconnexion. On a envie de prier pour toi, avec toi. Et on va prier tous ensemble. Donc on va chanter ce chant qui dit « Saint-Esprit, viens ». Je veux vraiment encore qu'on puisse tous se lever, fermer les yeux, mettre nos regards sur Jésus et chanter ce chant de tout notre cœur. Alléluia, levons-nous tous ensemble.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.